De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Et si on imaginait les utopies concrètes, quel tableau on en ferait? Il y a ceux qui aspirent à une vie plus sobre, qui pensent qu'il est l'heure de faire un pas de côté, de sortir des rails du progrès. Et ceux qui souhaitent aller de l'avant, qui jurent qu'on trouvera les solutions techniques pour s'en sortir. Alors demain, ce sera comment?
Demain, ce sera comment? Ce sera plus heureux, moins heureux? Quel monde se profile à l'horizon, notamment pour ces jeunes qualifiés de génération climat? Avoir 15 ans, 25 ans, 35 ans et se projeter dans l'après, est-ce source de bonheur ou d'angoisse? Le 27 mai 2020, la chaîne Arte, associée à d'autres médias comme Radio France, a lancé une grande enquête intitulée « Il est temps », une consultation en ligne pour questionner des citoyens sur la démocratie, l'écologie, les valeurs et les comportements de chacun, avec l'environnement en ligne de mire. Mais au-delà de ces jeunes gens ciblés, ce sont toutes les générations qui ont spontanément répondu à l'enquête. Un beau panel pour les sociologues et les spécialistes qui ont pu dresser un tableau global et faire ressortir la problématique jeune dans ce panorama. Aussi est-il temps pour nous ce soir de plonger dans ces résultats tout juste restitués et d'appréhender le monde de demain par le prisme de la jeunesse. Avec nous pour en parler en direct sur France Culture, Mathilde Himer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne. Avec nous également Maxime Gabory, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et membre du collectif Quantité Critique qui a travaillé sur cette enquête, Il est temps. Et en seconde partie d'émission, la réalisatrice Marine Guizy nous rejoindra pour son documentaire Alors heureux, heureuse, un film qui sera diffusé demain soir sur Arte à 22h30 et dans lequel elle brosse le portrait intime de sa génération qui se construit avec ses identités et sa volonté d'inventer, voire même de réenchanter le monde de demain. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est Stéphane Mandard, journaliste du quotidien Le Monde, qui nous livrera son choix info de la semaine. Il reviendra sur la décision inédite rendue jeudi 19 novembre par le Conseil d'État, qui donne 3 mois au gouvernement pour justifier que la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030 pourra être respectée. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la participation de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chaussée, Vanessa Chang, émission réalisée ce soir par Doria Zénine, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi.
On a tous nos idées reçues sur l'écologie. La première d'entre elles étant la suivante. L'écologie serait un truc de riche, une obsession de bobo, un luxe pour oiseaux rares. Les classes populaires, elles, auraient d'autres préoccupations bien plus importantes, comme payer le loyer, la cantine, acheter des masques. Bref, être écolo, ce serait pas vraiment la priorité. Alors, un privilège de riche, l'écologie? Vraiment? Ça chauffe. Et ça, l'ensemble des répondants au questionnaire en a bien conscience. Ainsi, à la question « L'écologie est-elle un truc de riche ?», les classes populaires répondent formellement non à 81%. Le mythe de l'écolo-bobo a du plomb dans l'aile.
Être écolo, c'est un truc de riche. D'accord, pas d'accord. Pas d'accord du tout.
Il y a des gestes du quotidien que tout le monde peut faire, comme couper l'eau quand on se brosse les dents ou faire du tri sélectif, ça c'est à la portée de tout le monde. C'est pas uniquement pour les personnes riches.
Eh oui, c'était l'extrait d'un des petits web documentaires « Il est temps » imaginé par Arthur Riflet et Christophe Nick, réalisé avec Thomas Derriès, et donc à découvrir sur arte.tv jusqu'au 24 février. Un souci de la planète partagée par tous, visiblement, ce qui laisserait entendre, Maxime Gabory, que l'écologie aurait conquis les consciences et même en partie les pratiques, on peut dire ça?
Oui, bah alors on peut dire effectivement que l'écologie, ou plus précisément la question climatique, la question du réchauffement climatique, a produit un certain nombre de bouleversements dans la manière dont les Français en général pensent. Mais quand on va un peu vite sur la question, on en vient souvent à la conclusion que finalement l'écologie, ça serait du coup devenu quelque chose de consensuel, quelque chose d'acquis et de partagé par tous. Et c'est un peu ça aussi qu'on a essayé de tester à travers ce questionnaire et qui nous intéressait, c'était quels sont les nouveaux clivages qui émergent à travers la prégnance de cette question climatique et écologique qui s'impose aujourd'hui à toute la population.
Alors justement, parlons du questionnaire parce que effectivement, il casse des idées reçues, nous allons le voir, mais il n'est pas totalement représentatif de la population française, il faut peut-être le préciser. Hein. Il faut donc tout d'abord en donner les spécificités peut-être, Maxime Gabory.
Alors oui, effectivement, c'est important de dire que c'est pas un échantillon qui ressemble à l'échantillon d'un sondage, c'est-à-dire qui serait représentatif de la population française. Cet échantillon-là, il a des particularités. Déjà, les répondants sont plus majoritairement jeunes que dans la population française en général. Ce qui était aussi un des enjeux du questionnaire, c'était d'avoir cette population-là particulièrement. Elle est socialement plus localisée dans les classes supérieures et elle est politiquement un peu plus située à gauche que la population française en général. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces quelques caractéristiques de l'échantillon ne remettent pas du tout en cause les résultats qu'on peut avoir dans l'enquête. Simplement, c'est des résultats de nature différente. On ne peut pas statuer grâce à cet échantillon que 56% de la population penserait d'une telle manière ou que 40% de la population pratiquerait ceci ou cela. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir la manière dont certaines particularités politiques s'articulent avec des pratiques, s'articulent avec une certaine conception de l'écologie, et on peut s'intéresser du coup aux sous-groupes et aux différentes manières d'appréhender l'écologie dans la population française, sans toutefois présupposer que une conception serait majoritaire par rapport à l'autre.
Mathilde Himmer, ce questionnaire va effectivement pouvoir renseigner tout ce qui se met en place en matière d'études, puisque effectivement le groupe Quantité Critique, ce groupe de sociologues dont fait partie Maxime Gabory, a dès les premières manifestations de jeunes intégré justement ces mouvements et essayé de comprendre un petit peu d'où venaient ces jeunes, qu'est-ce qui les animait. Ces jeunes-là, quel est votre sentiment, vous, peut-être, comment est-ce qu'ils se positionnent, en quoi est-ce qu'il se détache peut-être des autres classes d'âge?
Je pense que ce que disait Maxime est très juste, c'est qu'on voit des nouveaux clivages se dessiner. Et moi, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, parce qu'on voit bien que la question écologique se démocratise. Et on voit que dans le questionnaire, les jeunes eux-mêmes répondent que leur combat, finalement, à travers les grèves du vendredi menées par Greta, qu'on aussi mobilisé énormément de jeunes Français, ont permis de faire tache d'huile dans la société, donc que ce soit une question qui aujourd'hui est intergénérationnelle. Et ça, moi, je l'ai aussi très très bien vu au sein de la Convention citoyenne pour le climat, où on voyait finalement des aînés très à l'écoute des plus jeunes, qui avaient souvent plus d'expertise sur ces sujets-là que leurs aînés. Et donc c'est peut-être là où se situe la différence aujourd'hui, c'est à la fois au niveau de l'expertise, vraiment la connaissance fine du problème, mais aussi le niveau de radicalité. Parce qu'on voit bien que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de quelle écologie on veut. Et cette question-là, si tout le monde est pour l'écologie, tout le monde n'est pas pour le même type d'écologie. Donc c'est là que des nouveaux clivages arrivent.
Alors Maxime Gabory, vous parliez de positionnement à la fois sur l'écologie, mais aussi en lien avec les valeurs peut-être culturelles et politiques. Qu'est-ce qui se détache concrètement?
Alors, ce qui se détache de la base de données il est temps, c'est précisément que ce que disait Mathilde, il y a plusieurs rapports à l'écologie qui apparaissent. Nous, on a catégorisé ça en trois groupes différents, qu'on a appelé un peu rapidement le groupe des écologistes, le groupe des environnementalistes et le groupe des productivistes. Le groupe des productivistes, c'est le petit groupe qui est méfiant vis-à-vis des alertes des scientifiques, qui considère globalement qu'il n'y a pas d'urgence écologique et qui du coup voit l'écologie non pas à travers la question climatique, les grandes questions globales qui se posent aujourd'hui, mais plutôt voit l'écologie à travers la question des paysages ou alors de la propreté de la ville,
oui.
C'est-à-dire circonscrite à un niveau très local et qui ne remet pas en question finalement le mode de vie et les modes de production.
Petit groupe parce qu'il représente 4%, hein, je crois.
Oui, effectivement, dans la base, il représente 4%. Alors, il faut aussi prendre ces chiffres avec précaution en disant que ça n'est pas 4% de la population française, mais qu'en tout cas, c'est 4% des répondants, mais qui permet quand même de catégoriser un certain rapport à l'écologie qui s'exprime aussi dans la population française.
En sachant, on ne l'a pas précisé, peut-être que vous avez travaillé sur 42 000 questionnaires complets, hein, quand même, ce qui est
oui,
énorme.
Oui, absolument. Alors, depuis, il y a de plus en plus de personnes qui ont répondu, et je crois que sur l'ensemble des répondants sur les différents pays, on est à 350 000 répondants aujourd'hui. Donc, c'est une grosse réussite de ce point de vue-là. Mais effectivement, on a tiré les premiers résultats de cette enquête à partir des 42 000 premiers questionnaires qui nous paraissaient, enfin, qui étaient déjà représentatifs en un sorte. Et on a vérifié par la suite. Et il n'y a pas d'énormes différences qui émergent par la suite. Les résultats qu'on a sortis sont relativement fiables.
Donc, ensuite, il y a les environnementalistes, hein, 38%.
Qui, oui, c'est ça. Les environnementalistes, c'est toute la masse de ceux qui considèrent qu'effectivement il y a un enjeu écologique, qui se mettent également à faire certaines pratiques pour modifier leur impact écologique, mais qui n'ont pas véritablement tendance à remettre l'intégralité du système en cause dans leur pensée de l'écologie et qui se cantonnent la plupart du temps à des changements relativement restreints dans leur mode de vie.
Et puis les écologistes, qui sont plus représentés à 58% dans ce panel.
C'est effectivement, voilà, c'est le groupe le plus important dans ce panel, qui s'explique aussi par le fait que ça soit un questionnaire diffusé par Arte sur les questions écologiques. Il est normal que les populations les plus proches de ces enjeux, qui se sentent le plus concernés, répondent majoritairement. Mais ça donne à voir aussi un rapport à l'écologie particulier chez les écologistes. Le système capitaliste est véritablement remis en cause comme étant la cause du dérèglement climatique, et ne considère pas qu'il est possible de résoudre la crise climatique à l'intérieur du capitalisme.
Donc capitalisme et technologie ne résoudront rien. Ils sont assez pessimistes, hein, quant au capitalisme et à la technologie, et ils croient plutôt en l'action collective et citoyenne.
Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a un rejet des technologies, de l'idée que le progrès technologique peut amener finalement à une transformation du système, ou en tout cas peut amener à résoudre la crise climatique. Et ce sont ceux qui sont le plus engagés aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans leur pratique quotidienne. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis du système en général sont ceux qui, dans leur mode de vie au quotidien, sont ceux qui transforment le plus leur mode de vie, arrêtent de prendre l'avion quand ils le peuvent, consomment beaucoup moins de viande, etc., etc.
Alors justement, on va vous laisser juste, Maxime Gabory, prendre un petit peu d'eau. Je crois que vous en avez besoin de votre côté. Et puis nous, on va partir du côté de la viande.
Ah, la viande, ce symbole de force, de convivialité. Certains ont beau tout bien faire, trier leurs déchets, manger bio, local, faire pipi sous la douche, rien n'y fait. La viande, c'est sacré. Pas question d'y renoncer.
Doit-on arrêter de manger des animaux ?
La question qui fâche beaucoup.
Oui, on arrête pour plein de choses. Ouais. Pour tout, parce que ça sert à rien, on n'en a pas besoin, et c'est une catastrophe pour l'environnement, quoi.
Je pense qu'on peut arrêter de consommer autant de viande. On nous a toujours dit qu'il fallait consommer énormément de viande pour grandir, des choses comme ça. Moi, je pense qu'on peut grandir avec la soupe, avec plein de fruits et légumes.
Arrêter de manger des animaux, non. Par contre, repartir sur les vraies valeurs de l'élevage, oui. Ça, je suis complètement convaincu.
Refus de l'exploitation animale, remise en cause du productivisme, à une quasi-unanimité, 93% des répondants français et allemands estiment que l'élevage industriel est une dérive problématique.
Ah, je trouve ça horrible. Les animaux qui sont élevés comme ça en batterie, tout ça, les poulets et tout.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Mathilde Himmer, alors c'est vrai que ce sujet viande, on l'entendait dans ce petit reportage extrait des web documentaires diffusés sur Arte, c'est souvent un sujet qui fâche. Malgré tout, on sent une évolution. Est-ce que c'est le symbole d'une évolution de la société, justement, par rapport à ces enjeux aussi climatiques?
Oui, je pense complètement que c'est un symbole. Et d'autant plus que ce qu'on voit, c'est que les gens ont compris finalement qu'il y avait une relation entre la qualité de l'environnement dans lequel on est et la santé. Et on le voit d'ailleurs dans le questionnaire où les personnes les plus précaires disent avoir deux fois plus de problèmes de santé liés à des questions environnementales, comme la pollution de l'air par exemple, les pesticides par exemple. Et la question de l'alimentation est une question qui nous touche tous, parce que tous les jours on mange trois fois par jour. Et donc forcément, quand on a des images qui arrivent d'élevage en batterie, d'élevage de L214 ou autre, forcément on est choqué. Enfin, je veux dire, si on est humainement constitué, ça peut ou pas nous empêcher de manger de la viande après, mais ça crée quand même un choc. On se dit, oula, il y a peut-être une manière de faire qu'il faut changer en termes d'élevage. Et donc, assez progressivement, on a quand même l'impression qu'il y a une diminution de la quantité de viande, en tout cas de ce type de viande-là qui est mangée. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Il ne faut pas dire du jour au lendemain aux gens, non, il ne faut plus manger de viande, c'est blanc ou c'est noir. Par contre, dire, on diminue drastiquement la consommation de viande pour manger moins, mais mieux de viande, ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement entendable, y compris en France, parce qu'on voit que le résultat entre la France et l'Allemagne est très différent dans l'étude. Donc oui, c'est un des marqueurs et il va dans le bon sens. Et je crois pas seulement pour la question climatique, mais aussi pour la santé des gens. Et donc je pense que c'est une très bonne nouvelle.
Alors effectivement, le sondage s'intéresse aux pratiques, aux comportements individuels et collectifs, aux types d'engagement. On pense bien sûr aux manifestations, aux boycotts, à la désobéissance, à l'implication associative aussi. Est-ce que tout cela, Mathilde Himmer, montre aussi une crise de confiance dans les organisations internationales et les représentants nationaux, en un mot, nos gouvernements?
Oui, mais ça, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas nouveau. Enfin, il suffit de regarder les taux d'abstention qui ne cessent de grimper élection après élection, présidentielle compris en France. Hein. Donc cette défiance-là, on la voit, et nous, on se l'est pris de plein fouet hein, pendant la Convention citoyenne, où c'était vraiment 150 personnes tirées au sort sur des numéros de téléphone, donc y compris plein de personnes qui ne sont pas sur les listes électorales, au-delà de ceux qui s'abstiennent. Et donc cette défiance-là, on la sent très fortement, et je pense que chacun la vit avec ses proches quotidiennement. La question, c'est comment est-ce qu'on en sort ? Et donc il y a évidemment une question du diagnostic à poser, qui à mon sens est pas le bon selon les personnes. À nouveau, je reprends la première session de la convention et ça marche bien avec le questionnaire. Les trois quarts des citoyens qui étaient là, qui étaient donc tirés au sort, représentatifs de la société française, pour le coup, nous ont dit, on s'est pris une claque, une baffe, un électrochoc, quand ils ont eu des scientifiques du GIEC leur exposer où en était la science sur la question climatique. Parce que oui, pour eux, il y avait un petit problème avec le climat, mais pas du tout au niveau d'intensité, pas du tout au niveau d'urgence que ce qu'il est réellement. Et donc, c'est peut-être que ça change de case par rapport à ce que disait Maxime entre environnementaliste et écologiste. Évidemment, quand on a un diagnostic extrêmement précis et malheureusement gravissime de la situation, peut-être qu'on se rend compte que la technologie seule ne va pas nous sauver. Et donc face à ça, moi je le vis, je pense qu'on est beaucoup de jeunes et de moins jeunes à le vivre, il y a un sentiment d'impuissance. Donc on essaye par tous les moyens possibles de faire bouger les acteurs nécessaires, donc que ce soit du boycott vis-à-vis des entreprises, que ce soit nos changements de comportement personnel, que ce soit des pétitions. Au passage, j'en profite pour dire que la pétition de l'affaire du siècle qui avait fait plus de 2 millions de signataires et qui était devenue la plus grosse pétition, oui. On voit bien là qu'il y a des résultats positifs derrière, parce que le recours en justice de Grande 5, qui est corrélé à celui de l'affaire du siècle, a eu une réponse positive du Conseil d'État.
Oui, on va en parler tout à l'heure avec Stéphane Mandard, effectivement.
D'accord. Dans les 3 mois, de dire comment est-ce qu'il va faire pour tenir ses engagements. Donc ça, c'est vraiment des choses qui montrent qu'on se sent impuissant parce que nos gouvernements ne font pas assez. Néanmoins, il y a des petites victoires, je pense qu'il faut les saluer. Il faut aussi se dire qu'il y a un moment où on choisit qui on met au pouvoir, tout simplement.
Et qu'est-ce que vous sentez monter, justement, Mathilde Himmer, vous qui êtes, je le rappelle, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, qu'est-ce que vous sentez, percevez comme sentiment ou ressentiment peut-être face à l'incompréhension, il y a une incompréhension hein, face aux engagements non tenus?
Je sens une énorme frustration et une énorme déception. de certains citoyens, parce que l'engagement qui a été pris au tout début par le président de la République, c'était de reprendre l'ensemble des propositions sans filtre. À la fin des travaux, il a clairement dit qu'il mettait 3 jokers sur 149 mesures, ce qui était acceptable, en tout cas accepté par la très grande majorité de ses citoyens. Et les 146, par contre, qu'il les reprenait tels quels. Et là, on voit que le gouvernement détricote une bonne partie des mesures, même si certaines passent. Et donc, ce petit jeu-là de politique politicienne, les agace, crée de la défiance, crée une frustration énorme. Et donc, ça leur donne, j'ai envie de dire, deux envies. D'abord, de crier haut et fort leur frustration pour que le repeignage en vert, j'ai envie de dire, d'Emmanuel Macron ne puisse pas se faire à moindre compte. Autrement dit, que le président de la République, qui a peut-être essayé avec ses 150 citoyens de se refaire une image écolo, bah, n'y parvienne pas et plutôt prenne un carton rouge. Et la deuxième chose, c'est une colère, et une colère que je sens parmi les 150, mais que je sens aussi très très fort chez les jeunes, où après le sentiment d'impuissance, quand on voit finalement qu'il y a des responsables et que ces responsables ne font pas assez, bah, vous êtes en colère contre eux en fait. Parce que vous savez très bien que quand vous avez 15 ans, 18 ans, voire même 25 ans aujourd'hui, vous n'aurez jamais les manettes du pouvoir pour réguler la situation parce que c'est vos aînés qui les ont. Et donc vous n'avez pas d'autre moyen que de faire pression sur eux finalement. Et donc c'est un sentiment mixte de colère et d'impuissance qui est pas évident pour cette génération, qui est parfois un peu perdue sur la manière d'agir.
Maxime Gabory, en tant que sociologue, ayant travaillé sur cette... Sur ces 42 000 questionnaires, qu'est-ce qui ressort justement par rapport à ce ressentiment ou toute autre réaction à l'égard du fonctionnement de nos démocraties ?
Mais la démocratie, elle est considérée très majoritairement dans les institutions actuelles comme étant inefficace pour régler les enjeux climatiques qui s'imposent à nous tous, particulièrement d'ailleurs chez... les plus écologistes de la base, de ce groupe, ce fameux groupe des écologistes, qui considèrent véritablement que ça n'est pas à travers la démocratie représentative telle qu'elle se pratique aujourd'hui qu'il est possible de, bah, tout simplement, de changer le système, parce que c'est de ça dont il s'agit, de reconfigurer radicalement nos modes de production. Et ce que montre la Convention citoyenne pour le climat, je crois, c'est que les sciences du climat et le savoir sur l'urgence climatique reconfigurent complètement un nouvel espace politique dans lequel il reste des clivages, il reste des points de tension sur qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, mais globalement, c'est un nouvel espace politique dans lequel il y a un présupposé commun qu'on retrouve du coup aujourd'hui à la fois chez les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, chez les plus écologistes de notre base et dans les mouvements pour le climat, dans la diversité des mouvements pour le climat, c'est le fait que l'urgence climatique impose radicalement une transformation de nos modes de production de manière drastique. Alors après, des tensions persistent, des prévisions restent différentes et des conceptions du changement restent différentes, mais tout de même l'urgence climatique reconfigure l'espace politique dans lequel on peut prendre des décisions.
Alors vous parliez des clivages, on perçoit dans le sondage justement qu'il y a aussi des différences de mobilisation selon les catégories sociales et culturelles, visiblement les milieux de la santé, de la culture, de l'éducation, de la recherche semblent plus mobilisés, et puis aussi selon les domaines d'études pour ces étudiants, selon qu'ils sont en sciences humaines et sociales, en lettres, en langue ou en école de commerce, de médecine ou d'ingénieur, effectivement les choses ne sont pas les mêmes visiblement.
Oui, effectivement, c'est une des nouvelles fractures, c'est que en fonction des études que l'on mène, on ne va pas avoir les mêmes avis sur l'écologie, on ne va pas pratiquer l'écologie de la même manière. Alors, il y a dans les écoles de sciences humaines, dans les universités de sciences humaines, les universités de lettres, ceux qui ont fait ces cursus-là, une propension plus grande à participer au groupe des écologistes, et puis dans les écoles de commerce, là on retrouve plutôt des gens qui appartiennent soit au deuxième groupe, soit au troisième groupe, c'est-à-dire à une conception de l'écologie relativement vague et qui ne remet pas en cause finalement les grandes structures politiques, avec aussi une particularité des ingénieurs qui sont un groupe un peu à part, à la fois d'ailleurs dans cette base de données et dans les enquêtes qu'on a pu mener dans les marches pour le climat, parce qu'il y a une sorte de radicalisation progressive d'un certain nombre d'ingénieurs vers les questions écologiques. Disons que la prise de conscience écologique chez les ingénieurs modifie assez radicalement leur manière de voir le politique, et ça peut les conduire à des positionnements très à gauche. Mais ils viennent quand même d'un milieu qui, a priori, n'était pas particulièrement ancré justement soit à gauche, soit très à gauche. Et du coup, il y a chez les ingénieurs encore plus peut-être de division que dans les autres domaines d'études.
Et alors, ce que vous montrez aussi, c'est la notion de réussite qui n'est pas la même selon les étudiants, selon les catégories d'où on vient et le type d'études que l'on fait. C'est-à-dire soit la réussite passe par le travail ou alors par la décélération et l'utilité publique sociale ou par un investissement écologique de l'emploi, etc. C'est vrai, le sens donné au travail, au lieu de vie n'est pas le même. Et là, il y a également des subtilités quand même que montre le sondage.
Oui, effectivement, c'est que on ne considère pas son travail de la même manière en fonction, enfin, on ne considère pas le rôle du travail de la même manière en fonction qu'on soit un écologiste convaincu ou qu'on soit plus éloigné de ces enjeux-là. Globalement, dans le groupe des plus écologistes, le travail n'est pas considéré comme étant essentiel au bonheur, et ils sont plus nombreux à pouvoir se passer de travail, avec aussi un idéal très présent dans les milieux écologistes et dans aujourd'hui, pas d'ailleurs pas seulement les milieux écologistes, mais qui traverse une beaucoup plus grande partie de la population aujourd'hui, qui est que le travail n'est pas quelque chose d'épanouissant, et on peut s'épanouir dans plein d'autres domaines de la vie. Et puis il y a aussi évidemment des divisions qui persistent entre ceux qui ont un travail qu'ils considèrent utile à la société, et du coup là on se rend compte qu'ils sont plus nombreux à considérer qu'il faut travailler pour être heureux, et ceux qui ont un travail qu'ils jugent inutile à la société, là dans ce cas ils considèrent davantage qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour être heureux. Il y a vraiment aussi derrière tout ça une nouvelle quête de sens à travers le travail, et l'idée que pour toute une partie de la jeunesse aujourd'hui, le travail ne peut plus simplement être un moyen de gagner sa vie, mais doit véritablement être adossé à un sens, alors un sens politique au sens large, c'est-à-dire un travail qui participe au bien-être global de la société, qui puisse être épanouissant, autonomisant, mais qui, avant tout, n'a pas un impact négatif.
Et puis il y a la mobilisation qui est différente selon le genre, homme ou femme. Dans quel avenir se projette-t-il? Avec quel projet familial et quelles conditions matérielles?
Faire des enfants au XXIe siècle est un cas de conscience. Mais là encore, les hommes et les femmes affichent une différence. C'est l'un des résultats les plus marquants du questionnaire Il est temps. Les femmes sont seulement 25% à répondre que faire des enfants est une évidence, contre 37% des hommes. Faire des enfants ne va plus de soi. Une des raisons invoquées pour justifier le refus de la parentalité est écologique. La peur que leurs enfants naissent et grandissent dans un monde où le risque climatique touche tout le monde.
Pour moi, ça a été vraiment toujours une grande question, parce que j'adore les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, en fait? Et ça m'a tellement terrorisée que du coup, j'en ai pas fait.
Est-ce que je veux mettre des enfants au monde pour leur faire voir ça? Mon côté optimiste vous dira que oui, parce que je pense qu'on peut arriver à changer les choses, et je pense que c'est la nouvelle génération qui va changer les choses.
On récapitule. 65% des femmes déclarent que l'urgence écologique est maximale. 65% des répondants considèrent que faire des enfants au XXIe siècle est un cas de conscience.
Mathilde Immer, faire des enfants, fonder une famille à l'heure de l'anthropocène, il y a ce refus d'avoir des enfants par conviction écologique, et on sent bien que dans le sondage, mais certainement aussi parmi tous ces jeunes que vous côtoyez depuis des années, on sent ces femmes hein, quand même, je disais une différence de genre, mais on sent que ça vient aussi des femmes, ces femmes très concernées par l'écologie visiblement.
Oui, enfin, pour être très honnête, moi j'ai une trentaine d'années, et c'est un sujet en effet qu'on aborde énormément entre femmes sur la question écolo. Après, ma réponse à titre personnel, c'est aussi que ça dépend comment est éduqué votre enfant. Il faut aussi se rappeler qu'il y a, pour reprendre la question des clivages dont parlait Maxime, on sait bien que les 10% les plus riches polluent beaucoup, 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 beaucoup plus que 10% les plus pauvres. Donc il y a ça, et puis il y a aussi quel mode de vie on veut qu'ils vivent. Moi, je pense sincèrement, et d'ailleurs je le construis par ailleurs dans ma vie, qu'il y a des modes de vie alternatifs à celui qu'on vit aujourd'hui, qui sont aussi très joyeux, où on a des activités qui ont du sens et pas un travail qu'on subit. Il y a un habitat qui est accessible pour tous. Il y a des choses qui existent, qui commencent à se créer, qui aujourd'hui sont vues comme des îlots d'utopie ou des choses de hippie, comme ça pouvait l'être dans d'autres générations. Mais je pense vraiment qu'il y a un avenir à ça. C'est-à-dire c'est à la fois revenir vers plus de sobriété, mais où on accepte aussi la part de technologie qui a du sens, mais pas la technologie qui est complètement absurde. Et donc oui, la question de faire des enfants est une question qui nous taraude, et j'ai envie de dire, c'est une question aussi qui pose la question de où on en est dans notre vie, et est-ce qu'il faut rester dans le système actuel à essayer de se battre pour qu'il se change de l'intérieur, ou est-ce qu'il faut complètement passer à un autre système qui est en train de se dessiner et qui est bien plus joyeux et dans lequel on a moins de cas de conscience à faire des enfants. Mais c'est un sujet qui est compliqué, d'autant plus que nos aînés, parfois nos mères, comprennent pas toutes, parce que cette génération-là, c'était pour elle une évidence finalement de faire des enfants. Et donc il y a aussi une question de compréhension entre générations là, qui, pour le coup, est certainement en train de faire son chemin, mais qui est loin d'être finie.
Maxime Gabory, sur ces questions-là.
Oui, c'est une des questions qui nous a le plus marqué dans le questionnaire, parce que quand on a posé la question, quand on a réfléchi à une question sur... voulez-vous faire des enfants, ou est-ce que pour vous c'est un cas de conscience de faire des enfants, on pensait vraiment toucher à simplement une niche écologiste qui dirait que faire des enfants aujourd'hui c'est un cas de conscience. Et là, pour le coup, il s'est avéré que une très large partie des répondants considéraient que c'était un problème de faire des enfants, et qu'il y avait aujourd'hui un cas de conscience à faire des enfants. Et ça témoigne là, pour le coup, d'une véritable évolution, ou en tout cas, alors, qui aussi s'inscrit dans d'autres traditions, notamment des traditions féministes, qui est des questions qui se posaient déjà pour une partie de la population, mais qui là semble toucher de nouveaux publics avec cette idée que face à un avenir complètement incertain, comme on peut, enfin, vu la situation dans laquelle on est, la question de faire des enfants n'est plus du tout une question effectivement naturelle, mais commence à se poser pour une grande partie de la jeunesse.
Et donc, finalement, quelle que soit l'appartenance culturelle, sociologique, politique.
Alors non, effectivement, ces différences-là, elles persistent encore. Et là encore, plus la conscience de l'urgence est accrue, c'est-à-dire plus aussi on se positionne à gauche ou très à gauche, on a un engagement écologiste fort, plus la question de faire des enfants est une question prégnante. Dans le groupe des qu'on les appelle les productivistes, la question de faire des enfants et la question de fonder une famille ne se pose pas, et la famille reste finalement une valeur absolument centrale qu'ils ne remettent absolument pas en cause. Chez les plus écologistes, en revanche, c'est quelque chose d'extrêmement partagé, le fait de dire que fonder une famille, ça n'est pas un idéal de vie, que faire des enfants, ça n'est plus quelque chose de naturel, et que tout simplement, il faut essayer de renégocier avec tout ça, avec la peur du futur, avec parfois l'envie d'avoir des enfants, mais que, en tout cas, les questions qui jusqu'alors pouvaient sembler naturelles ne le sont plus à l'heure de l'urgence climatique.
Maxime Gabory, nous allons à ce stade de l'émission écouter votre choix musical. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter Les gens qui doutent de Vincent Delerme avec Jeanne Chéral et Albin de la Simone. Est-ce qu'il y a une raison en particulier, au-delà du fait que ces trois chanteurs sont impliqués sur la cause environnementale?
Non, pas véritablement, à part que peut-être si encore aujourd'hui, et c'est en tout cas une de mes conceptions, j'ai l'impression que l'humilité ou le fait de douter, c'est-à-dire le fait de ne pas être sûr dans son rapport aux autres, d'être humble dans son rapport à la nature, de ne pas considérer qu'on peut comprendre le monde qui nous entoure au point de vouloir le maîtriser, c'est finalement une des qualités écologistes qui me semble un peu primordiale aujourd'hui, et l'idée d'une chanson à la gloire des gens qui doutent me semble aussi être un geste assez écologiste au final.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Et c'est la suite de Cause à effet de notre magazine de l'environnement sur France Culture, en direct et consacré ce soir à la génération climat, à l'occasion de la grande enquête participative lancée par Arte en mai 2020. Il est temps, tel est son titre. Et pour en appréhender les résultats, plonger dans les comportements, les aspirations, les bonheurs et les craintes de ces jeunes citoyens, eh bien, nous sommes avec Mathilde Himer, cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, et avec Maxime Gabory, doctorant en sciences politiques à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et membre du collectif de chercheurs en sociologie Quantité Critique, fondé à l'automne 2018 et qui a travaillé justement sur cette enquête « Il est temps ». Et puis je vous rappelle qu'en seconde partie d'émission, la réalisatrice Marine Guizy nous rejoindra pour son documentaire « Alors heureux, heureuse » diffusé demain soir sur Arte. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonsoir Stéphane Mandard.
Bonsoir Lino.
Vous êtes notre œil du monde planète ce soir et votre choix s'est porté sur la décision inédite rendue jeudi 19 novembre par le Conseil d'État, qui donne donc 3 mois au gouvernement pour justifier que la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030 pourra être respectée.
Oui, un pas de géant, a tweeté Nicolas Hulot, qui avait claqué la porte du gouvernement précisément parce qu'il ne supportait plus la politique des petits pas historiques qui est enthousiasmé sa lointaine prédécesseur à l'écologie, Corinne Lepage, qui a renfilé depuis sa robe d'avocate. Vous demandez sûrement quel est l'objet de tant d'enthousiasme. Le délit d'écocide dont le gouvernement avait annoncé la création avec tambour et trompette? Non. À l'instar des citoyens des conventions climatiques, ils auraient préféré la notion de crime pour punir les atteintes à l'environnement. La mise en place du dispositif de signalisation des angles morts des véhicules lourds présenté lundi sans tambour ni trompette par les ministères de l'Intérieur, de l'Écologie et des Transports, c'est dur à dire. Encore raté. Bon, là, je me moque un peu. Non, ce qui a été salué comme un début de révolution par l'ensemble des ONG de défense de l'environnement et leurs avocats, au sens figuré comme au sens propre, c'est la décision, vous l'avez dit, Amélie, rendue le 17 novembre par le Conseil d'État. Dans un arrêt inédit en matière de contentieux climatique, la plus haute juridiction administrative du pays a fixé un ultimatum au gouvernement. Il lui donne donc 3 mois pour prouver qu'il pourra tenir ses engagements climatiques, à savoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, on dit par rapport au niveau de 1990, c'est un peu plus facile quand même, et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour la première fois donc, l'État va devoir rendre des comptes sur cette politique de lutte contre le dérèglement climatique. Fi les promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Et si le Conseil d'État n'est pas satisfait des réponses que doit lui apporter le gouvernement, il pourra lui demander de prendre des mesures pour rectifier le tir. Sans attendre 2030, sans attendre qu'il soit trop tard. Or, comme l'a rappelé le Haut Conseil pour le climat en juillet, il y a urgence à accélérer car la France n'est pas du tout sur la bonne trajectoire.
Mais alors Stéphane Mandard, qui est à l'origine de ce premier contentieux climatique ?
Alors c'est la ville de Grande-Synthe et son ancien maire écolo Damien Carême qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État. La commune du Nord s'estime en effet notamment vulnérable au risque de submersion. Et c'est la première collectivité à se retourner contre les cas pour dénoncer, je cite, son inaction climatique. Aussi, elle demande au Conseil d'État d'enjoindre au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Le Conseil d'État a jugé recevable la requête de Grande-Synthe. Il estime en effet que la commune du littoral est, je cite encore une fois, particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Le ministère d'Écologie soutenait absolument le contraire. La procédure a pris une dimension supplémentaire avec l'intervention des villes de Paris et de Grenoble, et surtout depuis que les associations de l'affaire du siècle se sont jointes au recours. L'affaire du siècle, vous vous souvenez, la pétition bien relayée par quelques people de la cause climatique avait reçu plus de 2 millions de signatures en un mois, un record. Les ONG de l'initiative, Notre Affaire à Toulouse, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, encore lui, ont déposé un autre recours devant le tribunal administratif de Paris, cette fois pour carence fautive de l'État. La décision du Conseil d'État dans le dossier de Grande-Synthe pourrait donc influer sur le jugement du tribunal administratif attendu, lui, au printemps 2021.
Mais alors, pour finir, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le Conseil d'État serait donc devenu le meilleur allié des défenseurs de l'environnement ?
Tout à fait, Aurélie, je pense qu'on peut le dire, et le pense aussi, parce que le Conseil d'État est en train de mettre la pression tous azimuts sur le gouvernement pour qu'il passe à l'action sur un autre front, celui de la pollution de l'air. Il lui a également fixé un ultimatum, l'exécutif a jusqu'à janvier pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les niveaux de pollution excessifs auxquels sont exposés les habitants des principales agglomérations françaises. Et cette fois, l'ultimatum tardive menace d'une lourde amende, à savoir une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Oui, Aurélie, j'entends déjà les réactions de vos invités. Il était temps.
Eh bien, réaction de nos invités. Je me tourne sans plus attendre vers vous, Mathilde Himmer. Une réaction ?
Bah, la réaction, c'est de la joie, parce que pour une fois, on a une action qui, là, a marché. Et je veux dire qu'elle a marché, c'est-à-dire que le premier étage de la fusée a marché. Le recours de Grande-Synthe est suivi par le recours des 4 ONG dont vient de parler votre interlocuteur, et qui permettrait potentiellement d'aller un pas plus loin, qui pourrait permettre de reconnaître l'obligation de l'État de lutter concrètement contre le changement climatique, ou par exemple de le sanctionner sur des carences, sur le manque d'énergie renouvelable en France, sur le fait que les bâtiments ne sont pas suffisamment efficaces d'un point de vue énergétique. Là où aujourd'hui le Conseil d'État s'est prononcé uniquement sur les gaz à effet de serre, et c'est déjà un pas de géant, on pourrait avoir avec ce deuxième recours des pas supplémentaires qui nous feraient gagner vraiment plusieurs années, parce que je vous le rappelle, ce que disait l'État jusqu'ici, c'est aux ONG, et c'est ce que leur a dit le Premier ministre au moment où les 4 ONG, dont je salue le travail et la patience, la réponse qu'a eu le gouvernement, ça a été de dire « vous avez fait un joli coup de com', et de toute façon, ces engagements de gaz à effet de serre, vous ne pouvez rien contre nous avant la date dite de 2030 sur lesquelles on est tenu, et où en vérité, ce ne sont pas les objectifs contraignants, ce sont des objectifs un petit peu en l'air, où on n'est pas tenu de les tenir. Et donc là, c'est vraiment une révolution où l'État, finalement, se rend compte que si ça devient contraignant, et que si on peut l'attaquer avant 2030. Et donc, il y a vraiment une responsabilité juridique aujourd'hui de l'État sur ces questions-là. Donc c'est vraiment un pas de géant. J'ose espérer que le Conseil d'État continuera à être notre allié, mais aussi parce que scientifiquement, je pense qu'ils ont des gens qui en ont un petit peu dans la cervelle, ou qui lisent les rapports du GIEC, tout simplement. Et donc, j'espère qu'ils iront encore un pas plus loin. Mais c'est une excellente nouvelle.
Bon, décision inédite en tout cas. Rendez-vous, Stéphane Mandard, dans 3 mois. Alors, un peu plus tôt, hein, pour vous, avec vos articles quand même sur Le Monde.
on va pas attendre 3 mois, mais on va suivre, effectivement.
Merci à vous. Et je précise pour nos éditeurs que toutes les informations sur ce sujet et votre article donc, sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr. Merci Stéphane Mandard.
Bonne soirée.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et tout de suite, je vous propose, avant de retrouver Marine Guizy, de plonger justement dans son film.
Tu arrives à te projeter dans 10 ans ?
Ouais.
20 ans ?
Ouais.
30 ans ?
Carrément.
C'est vrai ?
Ouais. Je commence à avoir des ambitions qui sont autres, en fait, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait appeler comme ambitieux dans la société dans laquelle on vit. Mais ouais, j'aimerais bien aller vers de l'autonomie alimentaire, qu'on ait un terrain et qu'on soit enfin une vie en communauté. Bon, j'ai pas forcément encore embarqué mon mec là-dessus. Je suis encore en train de réfléchir, mais moi, je suis assez convaincue et j'ai le temps. Je sais que c'est une direction qui me semble juste. Ouais, il y a un jeu social auquel j'aime bien m'adonner, parce que, faut pas me mentir, j'aime bien faire un peu attention à moi, j'aime bien la mode, j'aime bien tous ces jeux sociaux, mais c'est pas une fin en soi, et si un jour ça n'existe plus, en fait, c'est pas grave.
Bonsoir Marine Guizy.
Bonsoir.
Vous êtes réalisatrice du film Alors heureux, heureuse, qui sera diffusé demain sur Arte, donc à 22h30. Le portrait intime de votre génération, je précise que vous avez 29 ans. Donc cette génération avec ses identités, sa volonté d'inventer, voire de réenchanter le monde. Cette génération Y, c'est comme ça qu'on l'appelait jusque-là, avec cette image symbolique des écouteurs, je crois, vissée aux oreilles, nommée ou renommée aujourd'hui Génération Climat. Qu'est-ce que vous cherchiez, vous, Marine Guizy, à montrer peut-être ou à découvrir dans ce projet à l'origine?
Ce que je cherchais surtout, c'était de l'espoir, je pense, ou en tout cas une vraie volonté d'inventer le monde de demain. Je crois ce qui relie un peu les différents personnages, c'est ce désir qu'ils ont de ne pas être dans l'attente, mais de se demander comment ils vont pouvoir changer leur quotidien et celui de leur entourage.
Donc vous avez dû choisir des participants, mais on a le sentiment que finalement il y a eu un effet boule de neige ou de bouche à oreille, non ?
Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, j'ai effectué un petit peu plus de 60 entretiens. Et en fait, il y a eu un effet un peu, effectivement, boule de neige, de bouche à oreille. J'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux qu'on utilise, donc Instagram, Facebook. Et en fait, petit à petit, un entretien m'en amenait un autre, puis encore un autre, ce qui me permettait aussi d'élargir la palette des personnes interviewées et donc de réussir à montrer une diversité des personnages.
Et donc un panel varié, effectivement, que l'on découvre dans votre film Génération Non-Non, c'est comme ça que vous l'appelez aussi à un moment, celle qui veut, si je comprends bien, casser des codes, se réaliser dans un monde qui accepte plus facilement aussi les différences, c'est ce qu'ils veulent.
Je pense que cette question-là, c'est une question de nécessité. C'est-à-dire qu'avec cette question de départ, de savoir comment ils vont, est-ce qu'ils sont heureux ou heureuses, derrière la question du bonheur, il y a une nécessité à pouvoir être qui nous voulons être, en fait, à s'émanciper un petit peu de ce qu'on pouvait attendre de nous dans une société qui n'existe presque plus, ou en tout cas qui périclite de jour en jour.
Alors vous les avez sentis comment ? Est-ce qu'on peut parler d'une globalité ou d'un sentiment général ? Optimiste ou pessimiste ? Plus ou moins l'un ou l'autre ? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ?
Je dirais qu'ils sont plutôt optimistes parce que c'est des personnes qui ont toute la vie devant eux et que, comme un personnage le dit, il y a une nécessité d'espoir. C'est qu'il est même pas question de ne plus en avoir ou de ne pas en avoir. Mais par contre, une génération que je dirais très lucide.
Avec des doutes en tout cas, on le voit effectivement, des rêves, des envies, mais des doutes. Ils ont aussi besoin de faire des expériences, de suivre leurs envies. On retourne dans votre documentaire.
L'année où je suis arrivé ici, j'en pouvais plus du rythme de bureau, où tu bosses comme un taré tout le temps. En plus, moi, c'était un boulot que j'adorais, donc j'y mettais tout mon cœur et tout mon temps. Mais du coup, j'avais quand même envie là de changer de mode de vie pour le coup. Quand t'expliques que tu vis dans le centre de la France, dans une ferme, au milieu de moutons, tout de suite on dit oula le zazou, puis il accueille des artistes en résidence en plus. Et d'ailleurs au début on nous disait beaucoup oui mais polymorphe, déjà le nom c'est une pirouette parce que ça veut dire plusieurs formes, donc on fait toutes les activités qu'on veut, Et du coup, Polymorph, bah, c'est une liste d'activités. Et c'était pas tout à fait faux au début, c'était vrai que c'était assez ça, et ça nous a pris du temps parce que il fallait le temps d'expérimenter et de la réflexion que tu peux avoir seulement en étant ici sur place pour se rendre compte qu'en fait notre projet, bah, ce qui liait le tout, bah, c'était justement ces aspirations collectives, ces aspirations qu'on partage, se rendre compte qu'il y a énormément d'opportunités à la campagne et de les voir concrètement. Parce que si tu le dis, moi je le dis, bah, il faut juste que la personne qui m'écoute me croie. Mais après...
Croyez-moi.
Ouais, après il faut venir l'expérimenter parce que bon, tu peux avoir la croyance, mais tant que tu l'as pas vu en vrai, c'est pas pareil. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'était un peu, quand même, à la base, une histoire d'insouciance et de, bon, voilà, moi, ce que je disais, je revenais de voyage, j'étais un peu un moment, bon, je sais pas trop ce que je vais faire, alors je me laisse porter. Et du coup, je me suis laissé porter ici.
Marine Guizy, voilà, c'est un jeune homme que vous nous faites découvrir, qui se laisse porter dans le centre de la France. On voit aussi d'autres jeunes gens hein, tester, s'évader, revenir à l'essentiel, comme deux jeunes partis faire les vendanges. Qu'est-ce qui vous a peut-être étonné, rassuré, conforté ou bien désespéré? Alors, il y a ces enjeux écologiques, mais pas que. Hein, il ne faut pas non plus réduire cette jeunesse à cette préoccupation essentielle. D'ailleurs, dites-nous, est-ce que vraiment vous avez perçu qu'ils sont quand même traversés par ces enjeux-là, ils en ont conscience et ils imaginent leur vie aussi en fonction de l'écologie.
Je pense que effectivement, dans tous les personnages du film, il y a une vraie conscience des enjeux écologiques. C'est présent partout, dans toutes les personnes, peu importe qu'elles vivent à la campagne, à la ville, et aussi de leur classe sociale. Après, effectivement, le personnage qu'on vient d'entendre est un personnage qui a eu beaucoup de privilèges dans sa vie, qui a eu le privilège de faire des grandes études, de travailler pour la communication d'une grande ville en France, de partir à l'étranger, de voyager et d'avoir l'espace psychique pour se projeter ailleurs que dans des grandes villes et pour, d'une certaine manière, se désaliéner de ce bonheur qu'on nous vend dans les villes et qu'on nous vend aussi dans notre système de consommation. Donc, ce que j'ai surtout perçu dans ce film, c'est que la conscience écologique est partout, mais la capacité à transformer son quotidien et à transformer sa vie est réservée pour le moment plutôt à une partie de la population qu'on dira de classe sociale plutôt supérieure.
Oui. Maxime Gabory, je me tourne vers vous. Vous êtes toujours avec nous, j'imagine.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous dit, en tout cas, par rapport au sondage? Est-ce que c'est effectivement ce que vous avez pu constater de votre côté?
Ben alors, en un sens, oui. Et en même temps, une série d'entretiens comme ça donne toujours des résultats plus fins, ou en tout cas d'autres types de résultats que peut le donner un sondage où la plupart des réponses, il y a seulement quelques réponses possibles. Mais ce que j'entends là et ce qui fait écho à mon avis au sondage, c'est une manière de complexifier la question posée de manière souvent trop classique entre optimisme et pessimisme, avec l'idée selon laquelle pour faire des choses, pour agir dans la vie, il faudrait être optimiste face à l'avenir, il faudrait voir la vie du bon côté. Je crois que dans ce film-là, en tout cas de ce que j'ai eu la chance déjà d'en voir, il y a quelque chose comme une remise en question de ces oppositions-là, et le fait d'être très lucide sur la situation peut aussi conduire à des modes d'engagement très radicaux, à des transformations de vie assez fortes, même quand on n'a pas finalement énormément d'espoir dans l'avenir et qu'on a conscience que la possibilité d'une catastrophe pèse toujours sur nos sociétés. Et pour rebondir sur le questionnaire, c'est également quelque chose qu'on trouve, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus pessimistes face à l'avenir sont finalement ceux qui ont le plus de capacité à remettre en cause leur mode de vie, à être critique, à agir parfois aussi collectivement. Et ça donne à voir aussi quelque chose d'une reconfiguration pour une partie de cette jeunesse qui trouve aussi dans l'engagement collectif quelque chose qui permet de dépasser, de sublimer un pessimisme face à la situation climatique, écologique et plus généralement de l'époque.
Marine Guizy, ce film, c'est votre génération, mais c'est vous aussi. Dites-moi si je me trompe, à un moment on voit des archives, j'ai l'impression que ce sont des archives de famille, ou c'est vous avec votre famille sur le bassin d'Arcachon, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Est-ce que vous cherchiez aussi, vous, à dire des choses par rapport à la génération de vos parents et par rapport à vos propres aspirations ?
Oui, exactement. Oui. Je pense qu'effectivement, j'ai une... En passant par l'intime, je passe aussi par mon intime et je pars au départ avec mes questions, avec mes revendications. Et donc effectivement, l'utilisation de ces archives de moi enfant où on peut apercevoir mes frères et mes parents, c'est aussi une façon pour moi de m'adresser à mes parents et à la génération de mes parents et à celles qui m'ont éduquée. Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien, je leur dis que malgré nos colères, nos luttes et malgré les désaccords qu'on peut avoir parfois, il me semble que ma génération est une génération qui ne baisse pas les bras et qui, bien au contraire, prend en main des enjeux sur lesquels parfois ils ont un petit peu fermé les yeux.
Et pour vous, Marine Guizy, est-ce que l'écologie peut dessiner justement cette société future qui est celle de vos rêves hein, et de vos aspirations ? Est-ce que ça peut passer par l'écologie et comment ?
Oui, je pense que l'écologie, c'est un point central, mais une écologie en tout cas qui devrait se dire sociale. Je pense que qui dit écologie ne dit pas forcément solution ou vérité à la campagne. Je pense qu'il y a quelque chose où il va falloir réussir à naviguer entre les différents espaces, que ce soit les grandes villes, villes moyennes et ruralités, et que il va falloir réussir à un moment donné à créer une bascule entre l'écologie et des questions plus sociales ou même des questions de l'ordre d'identité, parce que par exemple, le personnage qu'on entend qui monte un collectif d'artistes dans le centre de la France.
Oui.
Fait ça avec une autre personne, Boniska, et qui me disait dans un entretien que je n'ai pas utilisé qu'il fallait aussi transformer les campagnes pour avoir des campagnes beaucoup plus queer, beaucoup plus ouvertes, à la différence des autres. Donc il me semble qu'il y a comme ça des ponts à faire.
Et des messages à trouver dans votre film, Marine Guizy, aussi. Merci beaucoup. Et justement, est-ce que le bonheur s'écrit en majuscule ou en minuscule ? Ce sera l'occasion de le découvrir dans Alors heureux, heureuse, à voir sur Arte demain soir à 22h30. Et puis merci à vous, Maxime Gabory, Mathilde Himer, tous les trois. Je précise que pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, les informations, bibliographies, les liens sur le site sont à votre disposition. L'émission franceculture.fr, rubrique de cause avez fait. Téléchargement, réécoute à votre disposition également. Mardi prochain, nous parlerons éco-anxiété et solutions avec Alice Desbiol, Laure Noya et Pablo Servigne. Pardon, restez à l'écoute. C'est la suite de vos programmes sur France Culture. Dans quelques minutes, le journal de la rédaction. Belle soirée à tous et portez-vous bien.